Voilà, je vais donc vous parler des Enfants terribles, qui est un livre écrit en 1929, et très rapidement, puisque ça a été écrit, nous dit Cocteau, une fois il dit en 15 jours, une fois il dit en 17 jours, donc quand même une quinzaine de jours. Et c'est intéressant de savoir qu'à ce moment-là, Cocteau, qui avait pris l'habitude de fumer l'opium, qui a subi plusieurs désintoxications dans sa vie, était justement en train de subir une cure de désintoxication dans une clinique à Saint-Cloud. Et c'est là qu'il a eu l'envie brusque d'écrire ce livre et qu'il a écrit très rapidement. Il raconte un certain nombre de choses justement dans cet ouvrage qui s'intitule Opium, qui est le journal d'une désintoxication. Il dit un certain nombre de choses sur les circonstances, enfin j'aurai l'occasion d'y revenir. L'anecdote qui nous est racontée dans Les Enfants terribles a été inspirée par la vie réelle d'un couple d'adolescents qui s'appelait Jean et Jeanne Bourgoin, qui vivait une vie un peu excentrique, et dont lui parlait le décorateur Christian Bérard quand il venait le visiter justement à la clinique de Saint-Cloud. Il s'est inspiré évidemment en partie de ça, mais en fait le livre a été aussi et même surtout inspiré par des souvenirs personnels, des souvenirs d'enfance, par ses préoccupations, par ses fantasmes, et donc c'est un livre profondément personnel. Et on peut penser que l'anecdote extérieure, en somme, n'a été qu'une espèce de catalyseur qui a précipité la rédaction d'un livre qu'en fait il portait en lui depuis longtemps et qui exprimait véritablement sa personnalité profonde. Pour résumer un peu cette intrigue, il faut savoir donc que le livre se compose en deux parties. Dans la première partie, donc, nous voyons les deux héros, Paul et Elisabeth, qui sont deux adolescents, Paul étant le plus jeune, il a 14 ans et sa sœur a 16 ans, qui par la suite, dans un certain nombre de circonstances, vivent seuls l'un avec l'autre, et qui forment une espèce de couple profondément uni, qui tout à la fois se déchire et s'adore. Ils ont une chambre en commun, c'est un lieu très important, mais un lieu à la fois réel et magique, où ils s'adonnent à des jeux excentriques, des jeux parfois cruels aussi, qui les mettent en marge du monde raisonnable, du monde réel, du monde pratique des adultes. Et ils se plaisent à jouer des rôles de personnages extraordinaires, et finalement, tout cela, c'est un peu du théâtre, d'une certaine manière, du théâtre qui se joue à eux-mêmes, qui joue aussi à un ami de Paul, Gérard, qui vient les voir et qui est fasciné par eux, et qui peu à peu d'ailleurs va tomber amoureux d'Elisabeth. Alors cette période pendant laquelle, justement, pour des circonstances que je dirais tout à l'heure, Paul ne va plus à l'école, reste chez lui, dure à peu près 3 ans, et elle va se terminer, ça sera la fin de la première partie, par l'entrée en scène d'un nouveau personnage, une jeune fille, amie d'Elisabeth, qui s'appelle Agathe. Dans la deuxième partie, le rythme de l'action va s'accélérer. Ce rythme qui s'accélère va emporter les 4 personnages vers un dénouement tragique. Un jour, Elisabeth prend conscience que Paul lui échappe. Il aime Agathe, et Agathe l'aime aussi. Mais finalement, ni l'un ni l'autre ne le savent, et Elisabeth profite de cette ignorance pour séparer Paul et Agathe. Alors elle persuade leur ami Gérard d'épouser Agathe, ce qui se produit, ce qui provoque le désespoir de Paul, qui va s'empoisonner, et ce qui provoque aussi le désespoir d'Elisabeth, qui va se tuer d'un coup de revolver. Donc voilà, très brièvement et schématiquement résumé, la tragédie qui s'est jouée. Pour commencer, nous allons peut-être pouvoir lire un passage qui se situe dans le début du livre. C'est la fameuse bataille de Boule de Neige. C'est un épisode important pour l'action parce que le héros Paul va être blessé par une boule de neige et c'est à partir de là qu'il sera obligé de rester chez lui. Donc il sera encore plus coupé de la vie normale. Et c'est un passage important aussi parce qu'en fait c'est une scène qui hante l'imagination de Cocteau. On la retrouve dans une séquence d'un de ses films, Le sang d'un poète, qu'il a tourné en 1930. Alors qu'il ne raconte pas du tout l'histoire des Enfants terribles, mais où on trouve cette séquence de la boule de neige, de la blessure, avec le même personnage d'Argelos, etc. C'est le soir, nous sommes en hiver, il neige, des enfants de 5e qui sortent du petit lycée Condorcet vont jouer dans un endroit qui s'appelle la Cité Montier et s'amusent à une bataille de boules de neige.
À droite, sur le trottoir qui touchait la voûte, on interrogeait un prisonnier. Le bec de gaz éclairait la scène par saccades. Le prisonnier, un petit, était maintenu par 4 élèves, son buste appuyé contre le mur. Un grand, accroupi entre ses jambes, lui tirait les oreilles et l'obligeait à regarder d'atroces grimaces. Le silence de ce visage monstrueux qui changeait de forme terrifiait la victime. Elle pleurait et cherchait à fermer les yeux, à baisser la tête. À chaque tentative, le faiseur de grimaces empoignait de la neige grise et lui frictionnait les oreilles. L'élève pâle contourna le groupe et se fraya une route à travers les projectiles. Il cherchait d'Argelos. Il l'aimait. Cet amour le ravageait d'autant plus qu'il précédait la connaissance de l'amour. C'était un mal vague, intense, contre lequel il n'existe aucun remède, un désir chaste sans sexe et sans but. D'Argelos était le coq du collège. Il goûtait ceux qui le bravaient ou le secondaient. Or, chaque fois que l'élève pâle se trouvait en face des cheveux tordus, des genoux blessés, de la veste aux poches intrigantes, il perdait la tête. La bataille lui donnait du courage. Il courait, il rejoindrait D'Argelos, il se battrait, le défendrait, lui prouverait de quoi il était capable. La neige volait, s'écrasait sur les pèlerines, étoilait les murs. De place en place, entre deux nuits, on voyait le détail d'une figure rouge à la bouche ouverte, une main qui désigne un but. Une main désigne l'élève pâle qui titube et qui va encore appeler. Il vient de reconnaître, debout sur un perron, un des acolytes de son idole. C'est cet acolyte qui le condamne. Il ouvre la bouche, targue. Aussitôt la boule de neige lui frappe la bouche, y pénètre, paralyse ses dents. Il a juste le temps d'apercevoir un rire et, à côté du rire, au milieu de son état-major, D'Argelos qui se dresse, les joues en feu, la chevelure en désordre, avec un geste immense. Un coup le frappe en pleine poitrine, un coup sombre, un coup de poing de marbre, un coup de poing de statue. Sa tête se vide. Il devine D'Argelos sur une espèce d'estrade, le bras retombé, stupide, dans un éclairage surnaturel.
Alors donc, le cadre de l'action, au départ, c'est un lieu bien réel, qui est présenté d'ailleurs dans une sorte de prologue dans les premières pages. C'est la cité Montier. Comme nous le dit la première phrase, la cité Montier se trouve prise entre la rue d'Amsterdam et la rue de Clichy. C'était un lieu bien connu de Cocteau, puisque lui-même avait fréquenté ce lycée. Alors c'est donc un lieu réel, banal même peut-être, mais transfiguré par l'imagination et la poésie. Ici, Cocteau a créé une atmosphère spéciale, précisément en situant cette scène à un moment où il neige. La neige volait, s'écrasait sur les pèlerines, étoilait les murs, avec donc cette espèce de transfiguration poétique, cette déréalisation de la banalité quotidienne par la neige. Et il faut remarquer que la neige sera un des thèmes récurrents du livre, un leitmotiv du récit, qui toujours apporte une espèce de charme, qui peut même d'ailleurs se répercuter à l'intérieur de la maison de Paul et Elisabeth. Elisabeth traversa la salle à manger, entra dans le salon, la neige y continuait ses prodiges. Donc la neige est vraiment une magicienne qui transforme les lieux. Debout derrière un fauteuil, l'enfant regardait cette pièce inconnue que la neige suspendait en l'air. La réverbération du trottoir d'en face projetait au plafond plusieurs fenêtres d'ombre et de pénombre, une guipure de lumière sur les arabesques de laquelle les silhouettes des passants plus petites que nature circulaient. Donc un monde presque à la limite du fantastique par moment, créé par la neige, qui d'ailleurs transforme la cité Montier. Ce soir-là, c'était la neige. Elle tombait depuis la veille et naturellement plantait un autre décor. La cité reculait dans les âges. Il semblait que la neige, disparue de la terre confortable, ne descendait plus nulle part ailleurs et ne s'amoncelait que là. Et en même temps, ce lieu, même lorsqu'il ne neige pas, devient un lieu extraordinaire, justement au moment où les élèves de 5e l'envahissent pour en faire un peu leur terrain de jeu. Cocteau nous montre comment cet endroit banal devient un lieu terrifiant finalement. Deux fois par jour, à 10h30 du matin et à 4h du soir, une émeute trouble ce silence, car le petit lycée Condorcet ouvre ses portes en face du 72 bis de la rue d'Amsterdam, et les élèves ont choisi la cité comme quartier général. C'est leur place de grève. une sorte de place du Moyen-Âge, de cour d'amour, des jeux, des miracles, de bourse aux timbres et aux billes, de coupe-gorge, où le tribunal juge les coupables et les exécute, où se complotent de longues mains ces brimades qui aboutissent en classe et dont les préparatifs étonnent les professeurs, car la jeunesse cinquième est terrible. Et on voit d'ailleurs dans le livre apparaître ici ce mot de terrible qui est dans le titre. Et effectivement, ce lieu paisible est transformé en lieu de drame et même de tragédie. On va y voir s'exercer la cruauté et la violence derrière cette atmosphère de jeux qui sont des jeux d'enfants. Dans le passage qu'on vous a lu, cette violence est particulièrement mise en relief. C'est une scène de torture, de sadisme, où un petit, le prisonnier, avec des termes d'ailleurs qui relèvent du vocabulaire de la guerre, les atroces grimaces, le silence de ce visage monstrueux qui changeait de forme, terrifiait la victime. Et c'est à la fois burlesque, puisqu'on lui frotte les oreilles, on lui frictionne les oreilles, on lui fait des grimaces, etc. Et en même temps, extrêmement cruel. Et cette scène n'est pas simplement anecdotique. Elle annonce l'action principale, elle annonce ce qui va suivre et qui va aussi comporter une victime et un bourreau. La victime étant Paul, dont on ne connaît pas encore le nom, puisque ce héros est désigné ici comme si c'était simplement un témoin avec sa caméra qui filmait la scène. Il va être désigné simplement pendant toute la scène par l'expression « l'élève pâle ». Donc c'est lui cet élève pâle. Cette pâleur suggère une espèce de faiblesse. Ça le prédestine à être une victime, la victime des forts et du fort que représente ici Dargelos. Il y a d'ailleurs un contraste significatif entre cette pâleur de notre héros et au contraire les joues en feu de Dargelos, quand on le voit se dresser au milieu de son état-major. Dargelos qui se dresse les joues en feu, la chevelure en désordre, avec un geste immense. N'oublions pas que c'est une place de grève, c'est un lieu de supplice, c'est un lieu où on exécute, c'est un lieu de mise à mort, même si ici la mise à mort est symbolique. Et alors il y a toute une espèce d'atmosphère tragique qui va se préciser de plus en plus avec l'idée d'une sorte de prédestination, une main qui désigne un but. Une main désigne l'élève pâle qui titube et qui va encore appeler. Et un peu plus loin, c'est cet acolyte qui le condamne. Là, il y a quelque chose, une espèce de présence mystérieuse dont on ne voit que la main, étant donné la pénombre, qui prédestine la victime. Le bourreau, lui, ça sera Dargelos. C'est, comme on nous le dit, le coq du collège. Un élève, le chef de la bande, le plus turbulent peut-être, le plus violent, le plus hardi, et qui fascine le héros. Bien sûr, Dargelos ne peut que mépriser l'élève pâle. On dit d'ailleurs que Dargelos goûtait ceux qui le bravaient ou le secondaient. Mais évidemment, l'élève pâle n'est capable ni de le braver ni de le seconder. Ici, on voit se dessiner au niveau de ces deux enfants toute une tragédie, comment vivent les adultes, la tragédie de l'amour qui est refusé. L'ironie du sort voudra que ce soit précisément Dargelos qui va porter à l'élève pâle le coup qui lui sera fatal. Alors, il peut paraître évidemment invraisemblable qu'une simple boule de neige produise un tel choc et oblige ensuite l'enfant à rester chez lui plusieurs années finalement. On peut songer à une explication, disons, de type réaliste, qui est d'ailleurs donnée d'une certaine manière dans le livre, puisque l'ami de Paul, Gérard, va croire que cette neige contenait une pierre, pour qu'elle ait pu blesser à ce point-là. Mais le narrateur ne tient pas du tout à l'expliquer ainsi. Il ne prend pas à son compte cette explication, tout simplement parce qu'il veut enrober cette action dans une espèce de mystère. C'est une action qui, finalement, va être à la fois sous le signe du tragique et sous le signe du merveilleux aussi. Le style du récit transforme une simple boule de neige en coup du destin, lorsque on décrit lentement, par un effet de ralenti, d'ailleurs, comme le cinéaste qui était Cocteau pouvait le pratiquer lorsqu'il tournait un film, un ralenti grâce à la répétition des mots, un coup le frappe en pleine poitrine, un coup sombre, un coup de poing de marbre, un coup de poing de statue, ralenti qui se mêle à certaines subtiles transformations dans les mots. Ce coup donné par la boule de neige se transforme en quelque chose d'une nature mystérieuse, merveilleuse même. Le coup de poing de marbre qui se précise ensuite par le mot de statue, nous suggère l'image presque des divinités antiques, des idoles. Et là, il faut prendre le mot dans tous les sens. C'est une idole. Cette statue s'anime puisqu'elle donne un coup de poing. Et alors là, on est vraiment dans le registre qui pourrait être celui du merveilleux. Donc d'Argelos, ici, est plus que d'Argelos. Enfin, c'est plus qu'un simple élève de cinquième. C'est l'instrument du destin. C'est l'émissaire de la mort, bien qu'ici, il ne s'agisse pas de la mort à proprement parler. Mais Paul va s'évanouir, sa tête se vide. D'une certaine façon, c'est quand même une blessure mortelle qu'il a reçue. Parce qu'il va garder en lui, ineffaçable, l'image de d'Argelos. Cette image qui reste inscrite profondément en lui sera l'occasion de sa mort. Enfin, il cherchera toujours l'image d'Argelos, notamment à travers Agathe. Un poème, justement, que Cocteau avait écrit un peu avant la rédaction du livre, qui a été aussi, nous dit-il, à la source du livre, éclaire l'importance, enfin, de cette scène, et éclaire surtout la dimension mythique. Alors c'est donc un poème qu'il rapporte à la fin de son livre Opium, et il dit que c'est un poème ayant servi de mise en marche après le cadeau des dernières pages. Parce qu'en fait, comme il nous le dit un peu avant, c'est les dernières pages qui se sont d'abord imposées à lui. Il a écrit la fin. Il y a eu ce poème, et puis ensuite tout le livre est sorti. Alors ce poème s'intitule Le Camarade, et vous allez voir que vous retrouvez les éléments qui sont là. Ce coup de poing en marbre était boule de neige. Et cela lui étoila le cœur. Et cela étoilait la blouse du vainqueur. Étoila le vainqueur noir que rien ne protège. Il restait stupéfait, debout dans la guérite de solitude. Jambes nues sous le gui, les noix d'or, le houx, étoilés comme le tableau noir de l'étude. Ainsi partent souvent du collège ces coups de poing faisant cracher le sang, ces coups de poing durs des boules de neige que donne la beauté vite au cœur du passant. D'Argelos, c'est la beauté d'une certaine manière qui a donné un coup mortel. Ça nourrit l'imagination de Cocteau et en même temps, l'histoire littéraire nous apprend que d'Argelos a existé. Enfin, et sous ce nom d'ailleurs, il y a bien effectivement un camarade que Cocteau a connu dans son enfance qui portait ce nom. Enfin, d'Argelos est resté nimbé d'une espèce d'aura mythique. Il faut croire que là, il y a une sorte d'identification quand même avec son héros Paul. Et d'ailleurs, Paul n'en veut pas du tout à d'Argelos. Au contraire, il admire même encore davantage de lui avoir fait cela. Et encore davantage parce qu'ensuite, justement, il va se montrer particulièrement insolent. Il va jeter du poivre dans les yeux du proviseur, etc. Et finalement, ça ne fait qu'augmenter son auréole et son prestige. Alors donc, après cet épisode dramatique, notre héros Paul va rester chez lui et va commencer une vie en marge des réalités normales. Les deux enfants sont isolés, ils ont perdu leur père. Leur mère va mourir très opportunément, on nous dit qu'elle est malade depuis un certain temps. Et on voit comment Cocteau, d'ailleurs de façon pas du tout réaliste, se débarrasse avec désinvolture des personnages qui ne sont pas nécessaires et qui au contraire même nuiraient à la concentration de l'action, de la tragédie. Les circonstances matérielles, elles aussi, sont résolues par des éléments providentiels. Un vieil ami de la famille, un vieux médecin, de loin, veille sur les deux enfants, pourvoit leurs besoins matériels, leur procure l'aide d'une bonne, etc. Ils peuvent très facilement se livrer à leur vie extraordinaire, à leurs occupations marginales et excentriques, dont on peut avoir une idée dans ce petit passage. Il leur arrivait, à Paul et à elle, de se nourrir de sucre d'orge qu'ils dévoraient chacun dans son lit en échangeant des insultes et des livres, car ils ne lisaient que quelques livres, toujours les mêmes, s'en gavant jusqu'à l'écœurement. Cet écœurement participait d'un cérémonial qui débutait par une minutieuse visite des lits dont il fallait chasser miettes et plisures, continuait par d'horribles mélanges et finissait par le jeu, auquel, paraît-il, l'écœurement donnait un meilleur essor. Alors ce jeu, c'est précisément une de leurs activités favorites. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qu'ils appellent jouer le jeu. Le jeu, c'est le jeu par excellence. C'est une espèce de rêve éveillé. Jouer le jeu. Jeu est un terme fort inexact. Mais c'est ainsi que Paul désignait la demi-conscience où les enfants se plongent. Il y était passé maître. Il dominait l'espace et le temps. Il amorçait des rêves, les combinait avec la réalité, savait vivre entre chien et loup, créant en classe un monde où d'Argelos l'admirait et obéissait à ses ordres. Donc, ils aiment jouer le jeu et, comme ils le disent dans leur langage aussi, ils sont partis. Être parti dans leur langage, c'est être dans cet état où on a quitté le monde banal, le monde de la réalité qui ne vous plaît pas. Justement, on pourrait maintenant lire un passage qui constitue dans le livre une des scènes qui nous montre le style de vie de ces deux adolescents et surtout l'intensité de leur rapport affectif.
Grâce au médecin, l'existence prit un rythme plus normal. Cette espèce de confort n'influait guère les enfants car ils avaient le leur et ils n'étaient pas de ce monde. Seul Dargelos pouvait attirer Paul au collège. Dargelos renvoyé, Condorcet devenait une prison. Au reste, le prestige de Dargelos commençait à changer de registre. Non qu'il diminuât. Au contraire, l'élève grandissait, décollait, montait au ciel de la chambre. Ses yeux battus, sa bouche épaisse, ses mains larges, ses genoux couronnés, prenaient peu à peu figure de constellation. Il se mouvait, tournait, séparé par le vide. Bref, Dargelos était allé rejoindre sa photographie dans le trésor. Modèle et photographie s'identifiaient. Le modèle devenait inutile. Une forme abstraite idéalisait le bel animal, enrichissait les accessoires de la zone magique, et Paul, délivré, jouissait voluptueusement d'une maladie qui ne lui représentait plus que des vacances. Les conseils des gardes n'avaient pas triomphé du désordre de la chambre. Ils s'aggravaient et formaient des rues. Ces perspectives de caisses, ces lacs de papier, ces montagnes de linge étaient la ville du malade et de son décor. Elisabeth se délectait à détruire des points de vue essentiels, d'écrouler des montagnes sous prétexte de blanchisseuse et d'alimenter à pleine main cette température d'orage sans laquelle ni l'un ni l'autre n'eussent pu vivre. Gérard venait chaque jour, accueilli par des bordées de gros mots. Il souriait, courbait la tête. Une douce habitude l'immunisait contre de telles réceptions. Elle ne l'impressionnait plus et même il en savourait la caresse. En face de son sang-froid, les enfants éclataient de rire, feignant alors de le trouver ridicule, héroïque, et de pouffer entre deux choses qui le concernaient et dont il faisait mystère. Gérard connaissait le programme. Invulnérable, il patientait, inspectait la chambre, cherchait les vestiges de quelques récents caprices sur lesquels déjà personne n'ouvrait plus la bouche. Par exemple, il lut un jour, tracé au savon en grosses lettres sur la glace, « Le suicide est un péché mortel. » Cette devise bruyante et qui subsista depuis devait jouer sur la glace le rôle de moustache sur le buste. Elle paraissait aussi invisible aux enfants que s'ils l'eussent écrite avec de l'eau. Elle témoignait du lyrisme d'épisodes rares auxquels personne n'assistait. Une phrase maladroite déviant les armes, Paul apostrophait sa sœur. Le couple abandonnait alors un gibier trop facile et profitait de la vitesse acquise. « Ah, soupirait Paul, quand j'aurai ma chambre, et moi la mienne, elle sera propre ta chambre, plus propre que la tienne. Écoute, Girafe, il veut un lustre, tais-toi. Girafe, il aura un sphinx en plâtre devant la cheminée et il veut peindre un lustre Louis XIV ou Ripollin. » Elle pouffait. « C'est vrai, j'aurai un sphinx et un lustre, tu es trop nul pour comprendre. » Et moi, je refuse de rester ici. J'habiterai l'hôtel. J'ai une valise prête. J'irai à l'hôtel. Qu'il se soigne tout seul. Je refuse de rester ici. J'ai ma valise et je refuse de vivre avec ce malotru. Chacune de ces scènes se terminait par la langue tirée d'Elisabeth, son départ, le saccage à coups de pantoufles des architectures du désordre. Paul crachait dans sa direction. Elle claquait la porte et d'autres portes qui claquent se faisaient entendre.
Nous les voyons ici dans leur domaine, cette chambre qui constitue un peu un monde à part, qui a son climat. Il est orageux en somme puisqu'on nous parle de cette température d'orage sans laquelle ni l'un ni l'autre n'eussent pu vivre. Et cette température d'orage définit leur rapport quotidien. Ils ont besoin de ces cris, de ces disputes, de ces injures, de ces gestes violents. Cela d'ailleurs étant encore plus vrai de la part d'Elisabeth. C'est elle qui fait claquer les portes lorsqu'elle s'en va, qui saccage tout à coups de pantoufles, etc. Elisabeth, en fait, assume dans le couple le rôle dominateur. Nous retrouvons là, d'ailleurs, la position de faiblesse qui caractérise constamment notre héros Paul. C'est tout un psychodrame qu'il se joue, qu'il renouvelle d'ailleurs chaque soir. Tantôt, on pleura des images qui sont celles du théâtre, de représentations auxquelles Gérard vient assister. Ils ont besoin de cette espèce de haute tension. Il joue devant un spectateur qui est Gérard. C'est lui d'ailleurs que l'on appelle Girafe dans le texte. Il est l'être normal, en somme, l'être raisonnable, qui fait mieux apparaître ce que les deux autres ont de particulier, d'extraordinaire. Les deux héros sont associés dans cette chambre. Ils vivent dans une espèce de communauté qui, pour eux, représente un besoin vital. Elisabeth se déshabilla. Aucune gêne n'existait entre la sœur et le frère. Cette chambre était une carapace où ils vivaient, se lavaient, s'habillaient comme deux membres d'un même corps. Alors cette chambre apparaît ici avec tout son caractère insolite et même, on peut dire, son caractère magique. Alors cette chambre, elle se caractérise par un désordre extraordinaire. Ils traversèrent une salle à manger en contournant de la table et entrèrent à droite dans la chambre des enfants. Cette chambre contenait deux lits minuscules, une commode, une cheminée et trois chaises. Entre les deux lits, une porte ouvrait sur un cabinet de toilette cuisine où l'on pénétrait aussi par le vestibule. Le premier coup d'œil sur la chambre surprenait. Sans les lits, on l'eut prise pour un débarras. Des boîtes, du linge, des serviettes éponges jonchaient le sol. Une carpette montrait sa corde. Au milieu de la cheminée trônait un buste en plâtre sur lequel on avait ajouté à l'encre des yeux et des moustaches. Des punaises fixaient partout des pages de magazines, de journaux, de programmes représentant des vedettes de films, des boxeurs, des assassins. Elisabeth se frayait une route à grands coups de pied dans les boîtes. Elle jurait, ils étendirent un fait le malade sur un lit, etc., etc. On voit bien ce désordre qui finit par créer dans cette chambre une espèce de géographie particulière. Ces perspectives de caisse, ces lacs de papier, ces montagnes de linge, donc montagnes des rues, c'est tout un monde qui se crée, qui constitue leur univers particulier. Un monde où règne l'étrangeté, avec notamment le détail du buste auquel on a mis des moustaches. On retrouve d'ailleurs, vous remarquez ici, le thème sous une autre forme, un peu burlesque, le thème de la statue que nous avions trouvé alors avec sa dimension de merveilleux tragique dans la première scène. Ce thème des statues, ça c'est une des grandes hantises de Cocteau. Ces statues représentent au fond peut-être certaines forces occultes, enfin. Paul, quand il rêve d'avoir une chambre à lui, qu'est-ce qu'il voudrait avoir? Un sphinx en plâtre. La statue avec des connotations particulières tout de même, parce que le sphinx, on peut supposer que c'est le sphinx comme il y en a en Égypte, on peut penser aussi au sphinx d'Œdipe. Et en tout cas, cette évocation du sphinx évoque à la fois le mystère et puis l'idée de la mort, parce que le sphinx d'Égypte est associé aux pyramides, qui sont des tombeaux. Bien souvent, Cocteau nous suggère qu'un destin tragique plane et que la mort plane. Et plus particulièrement dans ce passage, la mort qui va être la leur d'ailleurs est présente ici par cette inscription, une bizarrerie dont ils ont oublié d'ailleurs la raison. Or, cette formule, elle est prémonitoire. Et il y a beaucoup de formules prémonitoires dans le livre. Et je pense qu'il y a en plus un jeu ironique ici sur l'expression de péché mortel, qui est à prendre au sens religieux certainement, mais au sens propre aussi, parce qu'effectivement, on en meurt. Donc une formule qui est à la fois tragique et comique finalement, et qui peut, si on voit l'ensemble du livre, signifie que là il y a enfin un danger mystérieux qui plane, et le destin qui veille et qui prépare le dénouement. Cette chambre, elle est certainement traversée de forces occultes. Cocteau parlera du génie de la chambre. La chambre, en fait, est presque une force agissante dans l'action. Il semble qu'elle ait des volontés, elle les pousse à faire certaines choses, elle empêche certaines choses. Et finalement, c'est ce génie de la chambre qui préside à leur jeu et qui va, bien souvent, empêcher que l'esprit de la chambre soit détruit, que la pureté de ce lieu soit amoindrie. C'est par exemple le génie de la chambre qui tuera le mari éphémère d'Elisabeth, puisqu'à un certain moment, elle se marie avec un Américain extrêmement riche qui va lui laisser sa fortune et qui va mourir très peu de jours après le mariage, dans des circonstances d'ailleurs très dramatiques, puisqu'il va être étranglé par son écharpe qui se prend dans la roue de sa voiture, d'ailleurs, comme c'était arrivé d'ailleurs à Isadora Duncan. Alors donc, la chambre est une force. La chambre est un lieu qui a presque une sorte de volonté. C'est un lieu fabuleux. Les images qu'utilise Cocteau pour parler de cette chambre, enfin que ça soit cette chambre-là d'ailleurs, ou alors l'autre chambre qu'il va y avoir dans la deuxième partie, parce que cette chambre, dans la mesure où c'est plus qu'un lieu, où c'est un état d'esprit, elle pourra se reconstituer ailleurs quand ils auront changé de domicile. Et cette chambre, en fait, c'est leur carapace, c'est leur unité, c'est leur fantasme. Cette chambre, c'est un lieu saint. C'est l'expression qu'emploie Cocteau à la page 81, justement. C'est une sorte de temple. Il emploiera aussi ailleurs l'expression d'enceinte sacrée. C'est comme une espèce de culte qui s'y célèbre, dont Élisabeth est la grande prêtresse. Elle est, comme nous dit le texte à un certain endroit, la pythonisse de ce temple. Elle en est la Vierge sacrée. Et il est certain que la chambre est un lieu fabuleux, mais que nos personnages sont aussi des personnages fabuleux pour Cocteau. Et il y a une distance incommensurable entre nos deux adolescents et Gérard, qui n'ose d'ailleurs même pas envisager qu'il pourrait un jour épouser la Vierge sacrée. Cocteau les valorise, ces deux adolescents, admire finalement leur puissance poétique. Il parle du lyrisme d'épisodes rares auxquels personne n'assistait. Et à ses yeux, ces deux adolescents incarnent au fond la poésie, l'esprit de poésie. Et leur couple constitue un chef-d'œuvre. Car c'était bien un chef-d'œuvre que créaient les enfants. Alors ils parlent justement de ce désordre de la chambre auquel leur bonne la voudrait bien un peu remédier. Mais finalement, cette Mariette qui est un esprit simple, une bretonne inculte, elle déchiffrait, nous dit Cocteau, les hiéroglyphes de l'enfance. D'ailleurs, s'il l'appelle ce personnage Mariette, c'est en relation avec l'égyptologue Mariette. Alors, il y a toujours des clins d'œil qui parsèment le texte par moment. Et alors, il nous dit, elle qui est un esprit simple, elle comprend cela, elle est capable, elle a un esprit d'enfance un petit peu en quelque sorte. Elle sentait que l'air de la chambre était plus léger que l'air. Le vice n'y aurait pas résisté davantage que certains microbes à l'altitude. Air pur, alerte, où rien de lourd, de bas, de vil ne pénétrait. Mariette admettait, protégée, comme on admet le génie, comme on protège son travail. Or, sa simplicité lui communiquait le génie compréhensif, capable de respecter le génie créateur de la chambre. Car c'était bien un chef-d'œuvre que créaient ses enfants, un chef-d'œuvre qu'ils étaient, où l'intelligence ne tenait aucune place, et qui tirait sa merveille d'être sans orgueil et sans but. Ce sont des poètes à leur façon, c'est en cela que Cocteau se sent si proche d'eux. Et il nous dira ailleurs aussi, il fera l'éloge de ces êtres singuliers. Les êtres singuliers et leurs actes asociaux sont le charme d'un monde pluriel qui les expulse. On s'angoisse de la vitesse acquise par le cyclone où respirent ces âmes tragiques et légères. Cela débute par des enfantillages, on n'y voit d'abord que des jeux. Alors donc cette existence va se poursuivre. Le divorce avec le monde réel va s'aggraver même. La chambre prit le large, alors il y a toute une grande métaphore du navire. Jusqu'à ce qu'un nouveau personnage fasse son apparition, donc Agathe. Agathe est connue par Élisabeth qui, à un certain moment, a une espèce de lubie, en partie d'ailleurs pour ennuyer son frère. Elle décide de se mettre à travailler et elle se fait engager comme mannequin, où elle rencontre donc Ada. Et alors, dans ce passage, là aussi, on trouve une de ses phrases prémonitoires. Elle dit ceci, « Paul va être empoisonné », prévoyait-elle. Effectivement, elle va être empoisonnée à tous les sens du terme. Agathe, c'est un personnage aussi qui va s'intégrer. C'est une orpheline, parce que Cocteau a besoin de se débarrasser de tous les éléments trop réalistes. C'est une orpheline, fille de parents qui prenaient de la cocaïne et qui ont fini par se suicider au gaz. Donc, elle s'intègre à l'atmosphère de la chambre. Elle aussi, c'est une victime, d'ailleurs. C'est une faible. Et comme Gérard, elle appartient au monde ordinaire. Elle a un nom de bille, dit Élisabeth, et elle va venir troubler le jeu. Agathe jouissait d'être victime parce qu'elle sentait cette chambre pleine d'une électricité d'amour dont les secousses les plus brutales demeuraient inoffensives et dont le parfum d'ozone vivifiait. Alors, on pourrait prendre maintenant un passage où on va voir quel rôle est venu jouer Agathe dans ce jeu.
Le mécanisme qui avait conduit Gérard de Paul à Élisabeth conduisit Agathe d'Élisabeth à Paul. C'était un exemplaire moins inaccessible. Paul se sentit remué en présence d'Agathe. « Vous avez ma photo ?»«
Ce n'est pas ta photo, » dit Élisabeth.
« C'est vrai, le costume n'est pas pareil. Mais c'est incroyable, je la porterai. C'est exactement la même. C'est moi, qui est-ce »« Un garçon, ma vieille. C'est le type de Condorcet qui a frappé Paul avec une boule de neige. Il te ressemble, c'est exact. Paul,
Est-ce qu'Agathe lui ressemble ? À peine évoquée, la ressemblance invisible qui n'attendait qu'un prétexte pour éclater éclata. Gérard reconnut le profil funeste. Agathe, tournée vers Paul, brandissait la carte blanche et Paul, dans l'ombre pourpre, vit d'Argelos brandissant la neige et reçut le même coup de poing. Il laissa retomber sa tête. « Non, ma fille, dit-il d'une voix éteinte, c'est la photo qui ressemble. Vous, vous ne lui ressemblez pas. » Ce mensonge inquiéta Gérard. La similitude crevait les yeux. En vérité, Paul ne remuait jamais certaines laves de son âme. Ses couches profondes étaient trop précieuses et il craignait sa propre maladresse. L'agréable s'arrêtait au seuil de ce cratère dont les vapeurs étourdissantes l'encensaient. Dès ce soir, il se tissa entre Paul et Agathe une étoffe de fils entrecroisés. Une revanche du temps renversait les prérogatives. Le fier d'Argelos, qui blessait les cœurs d'un amour insoluble, se métamorphosait en une jeune fille timide que Paul dominerait. Élisabeth avait rejeté l'épreuve dans le tiroir. Le lendemain, elle la retrouva sur la cheminée. Elle fronça les sourcils. Elle ne souffla mot. Seulement, sa tête travaillait. Sous l'éclairage d'une inspiration, elle s'aperçut que tous les apaches, tous les détectives, toutes les étoiles américaines épinglées par Paul sur les murs ressemblaient à l'orpheline et à d'Argelos Attali. Cette découverte la jeta dans un trouble qu'elle ne précisait pas et qui l'étouffait. « C'est trop fort, se disait-elle. Il fait des cachettes. Il triche au jeu. Puisqu'il trichait, elle tricherait de conserve. Elle se rapprocherait d'Agathe, négligerait Paul et n'avouerait aucune curiosité. » L'air de famille des visages de la chambre était un fait. On aurait bien étonné Paul en lui en faisant la remarque. Le type qu'il poursuivait, il le poursuivait obscurément. Il en croyait n'en pas avoir. Or, l'influence que ce type exerçait sur lui à son insu, et celle que lui, Paul, exerçait sur sa sœur, contrariait leur désordre par des lignes droites, implacables, en route l'une vers l'autre, comme les deux lignes hostiles qui, de la base, se réunissent en haut des frontons grecs.
Donc, il se découvre dans ce passage que Agathe ressemble à d'Argelos, dont on a mis la photo dans ce qu'ils appellent leur trésor, photo qui représente d'Argelos en costume d'Attali, d'où remarquez que cette photo féminise d'ailleurs d'Argelos et prête davantage à la confusion avec Agathe. Paul va projeter sur elle son ancienne passion pour d'Argelos. Cette scène qu'on vient de lire est comme une espèce de doublé de la scène de la boule de neige, puisqu'il reçoit là aussi un choc. Donc, il y a des échos entre le début et la fin de cette première partie. Mais Paul cherche à se cacher la vérité. Vous, vous ne lui ressemblez pas. Alors qu'au contraire, Gérard et Lucide, et surtout Élisabeth, plus que Lucide. Enfin, elle a des soupçons qui commencent à s'éveiller. Donc, elle prend conscience, la première, de la fascination que Paul éprouve pour un type de visage. Et ça, c'est une manière, pour Élisabeth, de sentir que, d'une certaine manière, elle était exclue des préoccupations de Paul. Donc, commence à naître ici ce sentiment de jalousie, qui reste encore inconsciente, d'ailleurs. Elle se rapprocherait d'Agathe, négligerait Paul, n'avouerait aucune curiosité, mais qui évidemment va être le moteur du drame. Donc pour elle, Paul triche, et là nous retrouvons toujours cette thématique du jeu. Et à partir de là, donc, c'est la fin de la première partie, une faille s'est installée, les rapports seront faussés définitivement, avec l'idée de passion mortelle qui couve, de passion destructrice, l'image que l'on peut voir des laves et du volcan, du cratère. Et puis surtout, alors l'idée aussi de le mot de funeste qui qualifie le profil qui est sur la photo. L'ombre pourpre d'ailleurs aussi. Quand cette photo est brandie, c'est dans l'ombre pourpre, cette note rouge, il nous fait penser au sang, à la mort. Et puis alors surtout, ce qui va orienter notre imagination vers l'idée d'une tragédie, c'est le paragraphe final avec l'image des frontons grecs. Donc dans tout ce passage, Cocteau, après avoir fait en quelque sorte l'analyse psychologique des sentiments, des mauvaises fois, des mensonges que se font les personnages, va parler un peu en poète et avec un langage symbolique. Il fait référence à ces deux lignes hostiles qui, de la base, se réunissent en haut des frontons grecs. Les frontons grecs nous font penser à la tragédie grecque, à la tragédie antique. Et puis alors, ces deux lignes symétriques, mais dites hostiles ici, qui sont implacables, d'ailleurs des lignes droites implacables en route l'une vers l'autre, ce sont évidemment ces deux forces hostiles que représentent les deux passions opposées, celle de Paul pour Agathe et celle d'Élisabeth pour Paul. Et c'est là ce choc qui va provoquer tout le drame. La tragédie va s'accomplir dans la deuxième partie. Alors je vais passer sur un certain nombre de circonstances, notamment le mariage éphémère d'Élisabeth, le changement de domicile, le fait que la chambre se transporte ailleurs, mais se reconstitue dans une espèce de galerie. C'est une galerie assez extraordinaire, avec une architecture bizarre, où ils vont tout ramener, le buste avec les moustaches, la commode où il y a le tiroir avec le trésor, etc. La chambre, au sens mythique, va se reconstituer. Ils vont tous se regrouper comme il était autrefois dans l'autre chambre. Un jour, Élisabeth apprend que Agathe aime Paul et que Paul aime Agathe, sans que ni l'un ni l'autre personnage ne le sache. Et aussitôt, cette passion qui couvait en elle, cette jalousie qui était latente, va la mener finalement à une attitude criminelle, puisqu'elle va s'employer à détruire cet amour, afin de empêcher qu'il puisse se réaliser. Elle va aller trouver les divers acteurs du drame. Et à force de mensonges, elle va empêcher la réalité d'être connue et elle va déformer complètement le réel. Alors c'est là que nous voyons donc Élisabeth aller faire son œuvre de destruction.
Élisabeth descendit les marches. Elle portait un peignoir éponge attaché à la ceinture par une cravate. Ce peignoir pendait et la gênait. Mais elle descendait par machine, habitée d'un mécanisme dont elle n'entendait que la rumeur. Ce mécanisme la manœuvrait, empêchait le bord du peignoir de se mettre sous ses sandales, lui commandait de prendre à droite, à gauche, lui faisait ouvrir, fermer les portes. Elle se sentait un automate, remonté par un certain nombre d'actes et qui devrait les accomplir à moins de se briser en route. Son cœur battait à coups de hache, ses oreilles tintaient, elle ne pensait aucune pensée conforme à ce pas actif. Les rêves font entendre de ces pas lourds qui approchent et qui pensent, nous donnent une démarche plus légère que le vol, combinent ce poids de statue et l'aisance des plongeurs sous l'eau. Élisabeth, lourde, légère, volante, comme si son peignoir eût environné ses chevilles, du bouillonnement qui indique chez les primitifs les personnages surnaturels, suivait les couloirs, la tête vide. Cette tête n'abritait que la rumeur vague et sa poitrine que les coups réguliers du bûcheron. Dès lors, la jeune femme ne devait plus s'interrompre. Le génie de la chambre subsistait à elle, la doublait comme n'importe quel génie s'emparant d'un homme d'affaires lui dicte les ordres qui empêchent la faillite, d'un marin les gestes qui sauvent le navire, d'un criminel les paroles qui établissent un alibi. Cette course la mena devant le petit escalier qui conduisait à la salle déserte. Gérard en sortait. « J'allais te chercher, dit-il. Paul est étrange. Il voulait que je te cherche. Comment va la malade ? Elle a la migraine. Elle demande qu'on la laisse dormir. » Je montais chez elle. « N'y monte pas, elle repose. Va dans ma chambre. Attends-moi dans ma chambre pendant que je verrai Paul. » Sûre de l'obéissance passive de Gérard, Élisabeth entra. L'ancienne Élisabeth se réveilla une seconde, contempla les jeux irréels de la fausse lune, de la fausse neige, le linoléum miroitant, les meubles perdus qui s'y reflétaient et au centre, la ville chinoise, l'enceinte sacrée, les hautes murailles souples qui gardaient la chambre. Elle les contourna, écarta une feuille et trouva Paul assis par terre, le buste et la nuque appuyés contre ses couvertures. Il pleurait. Ses larmes n'étaient plus celles qu'il versait sur l'amitié détruite et ne ressemblaient pas aux larmes d'Agathe. Elles se formaient entre les cils, grossissaient, débordaient et coulaient à longs intervalles, rejoignant après un détour la bouche entrouverte où elles s'arrêtaient et d'où elles repartaient comme d'autres larmes. Paul attendait du pneumatique un résultat violent. Agathe ne pouvait pas ne pas l'avoir reçu. Ce coup nul, cette attente le tuait. Les promesses qu'il s'était faites de prudence, de silence, l'abandonnèrent. Il voulait savoir coûte que coûte. L'incertitude devenait intolérable. Élisabeth sortait de chez Agathe. Il l'interrogea. Quelle pneumatique ! Élisabeth, livrée à ses propres moyens, aurait sans doute engagé une dispute et les injures l'eussent vite distraite, avertissant Paul de se taire, de répondre, de crier plus fort. Mais en face d'un tribunal et d'un tribunal tendre, il avoua. Il avoua sa découverte, sa maladresse, son pneumatique, et supplia sa sœur de lui dire si Agathe le repoussait. Ces coups successifs ne provoquaient chez l'automate que les déclenchements qui variaient ses directives. Élisabeth s'épouvanta de ce pneumatique. Agathe savait-elle et l'avait-elle berné? Avait-elle oublié d'ouvrir un pneumatique et, reconnaissant l'écriture, était-elle en train de l'ouvrir? Allait-elle apparaître? Une minute, fit-elle, mon chéri. Attends-moi. J'ai des choses sérieuses à te dire. Agathe ne m'a pas parlé de ton pneumatique. Un pneumatique ne s'envole pas. Il faut que ce pneumatique se retrouve. Je remonte. Je reviens dans un instant. Elle se sauva, et se rappelant les plaintes d'Agathe, elle se demanda si le pneumatique n'avait pas été déposé dans le vestibule. Personne n'était sorti. Gérard ne regardait pas les lettres. Si on l'avait laissé en bas, il se pouvait qu'il y fût encore. Il y était. L'enveloppe jaune, froissée, incurvée, imitait une feuille morte, mise sur un plateau. Elle alluma, c'était l'écriture de Paul, une grosse écriture de mauvais élève, mais l'enveloppe portait sa propre adresse. Paul écrivait à Paul. Élisabeth déchira l'enveloppe. Cette maison ignorait le papier à lettres. On écrivait sur n'importe quoi. Elle déplia une feuille quadrillée, un papier de lettres anonymes. Agathe, ne te fâche pas, je t'aime. J'étais un idiot. Je croyais que tu me voulais du mal. J'ai découvert que je t'aime et que si tu ne m'aimes pas, j'en mourrai. Je te demande à genoux de me répondre. Je souffre. Je ne bougerai pas de la galerie. Élisabeth tira un peu la langue, haussa les épaules. L'adresse étant pareille, Paul, bouleversé, pressé, avait écrit son propre nom sur l'enveloppe. Elle connaissait ses méthodes. On ne le changerait pas. En admettant que le pneumatique, au lieu de végéter dans le vestibule, fût revenu comme un cerceau entre les mains de Paul, il se serait découragé de ce retour jusqu'à déchiffrer la feuille et à perdre espoir. Elle lui épargnerait les suites fâcheuses de sa distraction. Elle alla dans le cabinet de toilette du vestiaire, déchira le pneumatique et en fit disparaître les traces.
Le crime d'Élisabeth, c'est ici d'empêcher que Agathe reçoive ce fameux pneumatique que Paul a fini par lui envoyer. Et c'est bien d'un crime qu'il s'agit. Son cœur battait à coups de hache un peu plus loin du bûcheron, et c'est bien des images de destruction et de violence, effectivement, que nous suggère tout cela. Élisabeth est donc criminelle, mais en même temps, elle est mue par des forces qui semblent la dépasser. Elle est mue par une espèce de mécanisme. Elle descendait par machine. Ce mécanisme l'a manœuvrée, empêcher, etc., etc. Sa tête est vide, comme on nous dit aussi. Ce sont ses pas qui pensent, ce n'est pas sa tête. Elle agit là comme en rêve. Elle est à la fois lourde, légère, volante. Ses chevilles sont enveloppées à cause de son peignoir, du bouillonnement qui indique chez les primitifs les personnages surnaturels. Elle suit les couloirs sans réfléchir, etc. Et finalement, on retrouve d'ailleurs à son propos l'image de la statue. Nous retrouvons là, pour expliquer cette démarche criminelle d'Élisabeth, ses références au merveilleux. Et finalement, ce qui l'anime, c'est là encore le génie de la chambre. Donc, les deux personnages, évidemment, enfin surtout Paul va être désespéré de n'avoir pas de réponse, et elle va s'entremettre aussi pour persuader Gérard d'épouser Agathe, ce qui met définitivement un terme à l'amour possible entre Paul et Agathe. Alors donc, désespoir de Paul, les événements vont s'accélérer, et là encore, les coïncidences merveilleuses vont amener le dénouement, puisqu'un jour, Gérard, bon, qui est marié depuis quelque temps avec Agathe, rencontre de nouveau Dargelos. Donc nous voyons Dargelos au début du livre et à la fin du livre, et il va avoir exactement la même fonction, d'être l'émissaire du destin. Dargelos rencontre Gérard, lui demande des nouvelles de Paul. Dans le temps, ils aimaient parler de poisons, etc. Dargelos collectionnait des poisons et par imitation, Paul disait qu'il aimait les poisons. Aime-t-il toujours les poisons? Oui, bien sûr. Alors il lui donne une boule de poison qu'il doit lui remettre. Et cette boule de poison, évidemment, est en symétrie avec la boule de neige. Et d'ailleurs, Cocteau, dans son livre Opium, dit que cette correspondance est venu comme cela, sans qu'il l'ait cherché, sans qu'il l'ait voulu. Je ne savais pas que le livre s'ouvrait sur une boule blanche, se fermait sur une boule noire, et que Dargelos envoyait les deux. Vous voyez, il veut nous montrer que ce n'était pas prémédité, mais que ça s'est imposé à lui finalement, parce qu'il y avait une sorte de loi interne qui le demandait sans doute. Alors donc c'est du poison exotique qui va être mis lui aussi dans le trésor, parce que ce trésor va comporter beaucoup d'objets maléfiques, notamment la photo de Dargelos qui ressemble à Agathe. Et un jour, n'en pouvant plus, un jour qu'il a éloigné sa sœur, Paul prend ce poison. Et de nouveau, nous allons avoir le thème de la neige. C'est un dimanche de neige qui évidemment est en correspondance avec la scène initiale et où apparaît alors plus clairement ici la signification symbolique de la neige. Comment opposait-elle des forces raisonnables à cette fatalité de neige et de mort? La blancheur de la neige évidemment représentant la mort, le linceul. Donc Elisabeth s'aperçoit que Paul s'est empoisonné, car Paul, au dernier moment, a envoyé une lettre à Agathe pour dire qu'il allait se tuer. Agathe arrive, réveille Elisabeth. Toutes les deux essaient de le sauver. Ils comprennent mutuellement que Elisabeth, autrefois, les a trompés. Elle reconnaît son crime, d'ailleurs, mais elle le revendique avec orgueil. La neige fouettait les vitrages, Elisabeth recula. « Eh bien oui, dit-elle, c'est vrai, j'étais jalouse. Je ne voulais pas te perdre. Je déteste Agathe. Je ne permettrai pas qu'elle t'enlève de la maison. » L'aveu la grandissait, la drapait, lui arrachait son costume de ruse. Les boucles rejetées en arrière par la tourmente dénudaient le petit front féroce et le faisaient vaste, architectural, au-dessus des yeux liquides. Seule contre tous, avec la chambre, elle bravait Agathe, elle bravait Gérard, elle bravait Paul, elle bravait le monde entier. Elle saisit le revolver sur la commode. Agathe hurlait, elle va tirer, elle va tirer. Et alors, là nous arrivons à une espèce d'intensité, de paroxysme, où Elisabeth, d'ailleurs machinalement, sans avoir du tout aucune idée précise en tête, s'empare de ce revolver. Elle est en fait dans un état second, extrêmement exalté, un état second qui lui donne d'ailleurs une lucidité supérieure, où elle va réussir à entraîner avec elle Paul dans la mort.
Sa fièvre la rendait lucide. Elle découvrait les arcanes. Elle dirigeait les ombres. Ce qu'elle avait créé jusqu'alors, sans le comprendre, travaillant à la mode des abeilles, aussi inconsciente de son mécanisme qu'un sujet de la salpêtrière, elle le concevait, le provoquait, comme un paralytique se lève sous le coup d'un événement exceptionnel. Paul la suivait, Paul venait. C'était l'évidence. Sa certitude formait la base de son inconcevable travail cérébral. Elle continuait, 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 charmant Paul par ses exercices. Déjà, elle en était sûre. Il ne sentait plus Agathe s'accrocher à son cou. Il n'entendait plus ses plaintes. Comment le frère et la sœur eussent-ils fait pour l'entendre? Ses cris retentissent au-dessous de la gamme dont ils composent leur chant de mort. Ils montent, montent côte à côte. Elisabeth emporte sa proie. Sur les hauts patins des acteurs grecs, il quitte l'enfer des Atrides. Déjà l'intelligence du tribunal divin ne suffirait pas. Ils ne peuvent compter que sur son génie. Encore quelques secondes de courage et ils aboutiront où les chairs se dissolvent, où les âmes s'épousent, où l'inceste ne rôde plus. Agathe hurlait dans un autre lieu, à une autre époque. Elisabeth et Paul s'en souciaient moins que des nobles secousses qui remuaient les vitres. L'éclairage dur de la lampe remplaçait le crépuscule, sauf du côté d'Elisabeth qui recevait la pourpre du lambeau rouge et s'y maintenait protégée, fabriquant le vide, allant Paul vers une ombre d'où elle observait en pleine lumière. Le moribond s'exténuait. Il se tendait du côté d'Elisabeth, du côté de la neige, du jeu, de la chambre de leur enfance. Un fil de la Vierge le reliait à la vie, attachait une pensée diffuse à son corps de pierre. Il distinguait mal sa sœur, une longue personne criant son nom. Car Elisabeth, comme une amoureuse, retarde son plaisir pour attendre celui de l'autre, le doigt sur la détente, attendait le spasme mortel de son frère, lui criait de la rejoindre, l'appelait par son nom, guettant la minute splendide où il s'appartiendrait dans la mort. Paul, épuisé, laissa rouler sa tête. Elisabeth crut que c'était la fin. appuya le canon du revolver contre sa tempe et tira. Sa chute entraîna un des paravents qui s'abattit sous elle, avec un tintamarre effroyable, découvrant la lueur pâle des vitres de neige, ouvrant dans l'enceinte une blessure intime de la ville bombardée, faisant de la chambre secrète un théâtre ouvert aux spectateurs. Ces spectateurs, Paul les distinguait derrière les vitres. Tandis qu'Agathe, morte d'épouvante, se taisait et regardait saigner le cadavre d'Élisabeth, il distinguait dehors, s'écrasant parmi les rigoles de givre et de glace fondue, les nez, les joues, les mains rouges de la bataille des boules de neige. Il reconnaissait les figures, les pèlerines, les cache-cols de laine. Il cherchait d'Argelos. Lui seul, il ne l'apercevait pas. Il ne voyait que son geste immense. « Paul, Paul, au secours !» Agathe grelotte, se penche. Mais que veut-elle? Que prétend-elle? Les yeux de Paul s'éteignent. Le fil se casse, et il ne reste de la chambre envolée que l'odeur infecte et qu'une petite dame sur un refuge qui rapetisse, qui s'éloigne, qui disparaît.
Alors donc, vous voyez dans ce passage comment, par une espèce d'action magique qui rappelle ces jeux et jouets entre eux, elle charme son frère et finalement recrée d'une certaine manière leur complicité initiale. Ce qui est intéressant, je crois, ici, c'est de voir avec quel lyrisme Cocteau a décrit cette espèce d'ascension, parce qu'il monte, côte à côte. Donc c'est une espèce d'ascension au cours de laquelle Élisabeth emporte sa proie. Et dans une certaine mesure, c'est une sorte d'apothéose. Ils atteignent des régions absolument pures, encore quelques secondes de courage, ils aboutiront où les chairs se dissolvent, où les âmes s'épousent, où l'inceste ne rôde plus. C'est une apothéose ambiguë d'ailleurs, une fois qu'Élisabeth est morte, on s'aperçoit que ce qu'il y a dans les derniers instants de Paul, ce qu'il voit finalement, ce n'est plus tellement Élisabeth, ni même Agathe, mais c'est d'Argelos et la bataille de Boule de Neige. D'ailleurs, la chambre est détruite au moment où finalement la grande prêtresse est morte aussi. Et ce qui triomphe ici, c'est cette malédiction au fond qui était attachée à la figure de d'Argelos. C'était cette fatalité qui condamnait Paul depuis le début et qui maintenant trouve son achèvement. Mais en même temps, il y a quand même un lyrisme qui fait de cette double mort une espèce d'apothéose, et d'apothéose pour Élisabeth, qui peut croire qu'elle emporte son frère dans la mort et qu'ils vont s'appartenir. C'est ce que suggère évidemment l'image de l'amoureuse et de la minute splendide où ils s'appartiendraient dans la mort. Par cette fin qui est volontairement un peu ambiguë, Cocteau nous montre l'espèce de triomphe de cet amour presque inhumain d'une certaine manière et qui fait que ces deux êtres n'auront jamais été véritablement séparés. Ce n'est pas vraiment un roman, d'ailleurs, que Cocteau a écrit ici. C'est plutôt une espèce de conte dont nous voyons tous les côtés, d'ailleurs, invraisemblables par moments. Je crois qu'il a mis en œuvre ce qu'il appelle lui-même la poésie de roman, avec le grand nombre d'images, de métaphores qui l'animent, et la création de ce climat un peu intemporel et poétique, et je crois fait le charme, enfin, du moins à mon avis, de ce roman. Vous savez d'ailleurs que le roman a été transposé en film par Jean-Pierre Melville en 1949 et que Cocteau avait contribué au scénario. Donc c'est une œuvre qui reste fidèle à l'esprit du roman initial. Ça a eu beaucoup de succès, notamment ça a eu beaucoup d'échos dans la jeunesse qui a reconnu un peu son mal de vivre, si vous voulez. C'est quand même l'époque où on parle d'un nouveau mal du siècle. Et d'une certaine façon, les enfants terribles sont un peu l'expression la plus romantique et la plus poétique de cet état de malaise avec justement ces deux personnages d'adolescents. C'est un des grands thèmes de la littérature de l'entre-deux-guerres, d'ailleurs l'adolescence. L'œuvre a eu une résonance très grande, qui d'ailleurs a surpris quelquefois Cocteau, même ne lui a pas forcément tellement plu. C'était pas forcément cela que lui avait voulu y mettre, mais en fait ça n'empêche qu'il y a eu cet écho réel.
Voilà. Il y a en permanence un jeu de miroir entre tous les personnages qui se renvoient à leurs propres images, et chacun des personnages qui en contient plusieurs. Et toute l'ambiguïté masculin, féminin, féminin, masculin, oui, se retrouve à l'intérieur des deux. Et la plupart du temps, c'est la partie féminine d'un des personnages qui est la détentrice de l'autorité et l'agent actif, ce qui n'est pas un pléonasme, alors que c'est la partie masculine, ou que l'on attend être masculine, du personnage féminin ou du personnage masculin, qui subit l'entregent, l'action, la direction d'événements qui est dévolue, dans certains cas, au personnage féminin ou à la partie féminine d'un personnage. Mais juste une parenthèse pour les gens qui auraient envie de le lire et de tomber dessus. On a les dernières clés du trio, parce qu'en fait, il n'y a qu'un trio. Gérard compte pas trop, c'est le frère, la sœur et Agathe. Dans certains passages du livre blanc. Et c'est dans le livre blanc qu'on retrouve d'Angelos, comme on le retrouve dans le Potomac d'ailleurs.
C'est ça, on le retrouve partout. En fait, c'est vraiment
c'est dans
un
le
mythe.
Livre blanc que l'on retrouve cela, où il y a alors là vraiment le Cocteau qui parle en son nom, alors que là, il ne parlait comme dans le théâtre grec que par allégorie interposée.